OK, ça marche. On va aller au... Venez me suivre, on va aller dans Genèse 35, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, jusqu'à 29. Alors, 16 à 29. Genèse 35, verset 16 à 29. Ils partirent de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padamaran. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il mourut. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé tout simplement la leçon d'aujourd'hui « Le Seigneur contrôle les circonstances providentielles de Jacob ». Qu'est-ce qu'on veut dire par des circonstances providentielles? Les circonstances providentielles, c'est que Dieu, de toute éternité, a décrété toutes les choses qu'on se devrait de vivre. Il n'y a rien dans notre vie qui arrive sans que Dieu ait voulu que c'est ça qui arrive dans nos vies. Alors, c'est pour ça que dans Romains 8, 28, on dit qu'on devrait, toutes choses contribuent au bien, toutes choses travaillent ensemble, contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme chrétiens, on se devrait d'accueillir les circonstances que Dieu permet, qui arrivent sur notre route, en étant joyeux, parce qu'on sait que Dieu est sage, et dans sa sagesse, ce qu'il permet qu'il nous arrive est plein de choses pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Des fois, c'est des épreuves, des fois, c'est des bénédictions. Moi, je dirais que c'est toutes des bénédictions, mais il y en a qu'on les perçoit, puis d'autres qu'on les perçoit pas. Comme une épreuve, c'est rare qu'on perçoit une épreuve comme une bénédiction. Pourtant, souvent, ce sont par les épreuves qu'on grandit, très souvent. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu contrôle les circonstances providentielles de Jacob. Autrement dit, Jacob, il venait de vivre quelque chose de difficile. Ses enfants avaient décidé d'aller tuer... toute cette tribu-là, et il y avait eu du mensonge là-dedans. Et là, on est rendu où que Dieu nous raconte le reste de ses jours. Là, on achève on est à la veille depuis de n'entendre parler là, de Jacob. Après le chapitre 36, on va parler surtout d'Ésaü. Puis après ça, on tombe dans le chapitre 37. Chapitre 37, aller jusqu'à la fin, on parle de Joseph. Moi, cette section-là de la Genèse, ça m'a toujours passionné, je trouve ça extraordinaire. La manière dont Dieu travaille, Dieu se sert des événements qui, cuits à nos yeux, sont négatifs pour faire des choses extraordinaires. Sauver une nation au complet par le péché. Dieu se sert du péché de l'un pour faire du bien à son peuple. Et ça, c'est constant dans la vie. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment Dieu agit dans la vie, dans les circonstances de Jacob. après qu'il a eu traversé cette épreuve-là, que ses fils ont décidé d'éliminer une nation. Si on regarde un petit peu la structure du chapitre 35, des fois c'est bon de regarder un chapitre avec un peu de recul pour voir qu'est-ce que Dieu a fait dans le chapitre. Quand on le regarde dans le chapitre 35, on a un excellent exemple que Dieu contrôle et le maître absolu de toutes nos circonstances. Dans la première partie du chapitre, on assiste à trois communions de Dieu avec Jacob. Il vient de vivre un événement extraordinairement pénible. Il pense qu'il est en danger de se faire éliminer la race d'Israël complet. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, lui apparaît trois fois. Voyez-vous, il faut voir la main de Dieu dans les circonstances qui sont agréables. Dieu qui vient lui parler, Dieu qui vient le rassurer, c'est quelque chose de super important pour lui dans sa vie. Si Dieu n'avait pas fait ça, à ce moment-là, il aurait été... Alors, voir ça, et de voir que même si Dieu a permis ça, parce que le chapitre 35, on a trois communions. D'abord, Dieu lui apparaît pour lui dire, « Monte à Bethel, quitte ce lieu-là et reste-y. » Depuis le début, qu'il était supposé de retourner vers le lieu de naissance de son père, ça fait un paquet d'années qu'il est parti, puis il n'a pas encore accompli sa part du marché, comme on pourrait dire. Ensuite, Jacob détruit toutes les traces d'idolâtrie dans sa famille, puis il bâtit un autel pour rétablir sa vie d'adoration, et le Seigneur lui confirme le changement de son nom, de Jacob qui voulait dire trompeur, supplanteur, en celui d'Israël qui veut dire que tu as lutté avec Dieu et que tu as été le vainqueur. Alors, le changement est très significatif que la nation d'Israël, elle ne s'appelle pas Israël pour rien. Alors, il lui rappelle aussi que son nom a été changé. Il lui rappelle aussi que l'alliance que Dieu avait prise avec Abraham, qui s'est transmise à son fils Jacob, Isaac, s'est transmise. On est rendu à la troisième génération. Autrement dit, Dieu est en train de dire, l'alliance que j'ai prise de vous envoyer un Messie, là, ça va prendre du temps. Mais elle va se transmettre de génération en génération. Et soyez certains que ce que j'ai promis par l'alliance va se réaliser. Ça a pris 2000 ans. Ça a été long. Hein? Mais quand Dieu fait une promesse, lui, la vision de Dieu, du temps, n'est pas la même que nous. Nous, 2000 ans, on vit, c'est rare qu'on dépasse 100 ans, très rare. La deuxième partie du chapitre 35 va nous illustrer de manière différente d'agir du Seigneur dans nos vies. Premièrement, dans la deuxième partie du chapitre 30, dans le chapitre 35, il va y avoir la perte de trois êtres chers. Déborah, qui était la nourrice de Rebecca, sa mère, était la nourrice de sa mère. À cette époque-là, nourrice, ça avait une relation, elle faisait partie de la famille. Fait que lui, il vient de connaître trois apparitions de Dieu, des encouragements du Seigneur, mais le Seigneur permet quand même qu'ils connaissent quelque chose qu'on sait tous qui est douloureux, la mort. Alors, la nourrice Déborah, il perd Déborah, et il perd sa tendre épouse Rachel qui aimait tant, il l'aimait, c'est elle qui aimait le plus, il la perd, puis il la perd dans des drôles de circonstances, il la perd alors qu'elle accouche. Et elle lui donne le nom de Benoni, fils de ma douleur, tandis que le père lui dit, non, il va s'appeler Benjamin, fils de ma droite. Alors, on va voir les références. Alors, fils de ma douleur, qui veut dire, Jésus-Christ, est-ce qu'il est un homme de douleur? Est-ce qu'il est le fils de la droite aussi? Il faut faire les références à Jésus-Christ tout le temps, parce qu'à ce moment-là, on est béni quand on le fait. On va revenir là-dessus tantôt. Et, non seulement, il va connaître la mort de Déborah, la mort de son épouse Rachel, mais il va connaître une autre mort, qui est celle de son père, Isaac, 180 ans. Alors, quelque part, voyez-vous, il vient d'avoir trois bénédictions de Dieu, puis là, Dieu va permettre qu'il y ait trois épreuves de mort, quasiment une en arrière de l'autre. Il faut voir la main de Dieu là-dedans, parce que Dieu agit là-dedans. Il contrôle les circonstances, c'est ça que je veux dire. Et en plus de ça, c'est comme si on dirait, c'est passé, trois morts. Son fils, Ruben, qui était le plus vieux, décide de coucher avec sa femme. Oh mon Dieu! J'imagine, à cette époque-là, quand un enfant qui couchait avec la femme de son père, c'était supposé qu'il la mort. La punition, c'était la mort. Imagine comment lui a dû se sentir. Il vient de connaître trois morts, puis en plus, il apprend que son fils a couché avec sa femme. On se souvient que Ruben était le premier-né. On se souvient aussi, on va les revoir tantôt, les innombrables, pas les innombrables, mais les très grands privilèges qui étaient rattachés à la notion du premier-né. Il y avait des choses qui étaient rattachées, des bénédictions qui étaient rattachées à ça. On va voir qu'il va les perdre. Donc, à quelque part, son fils fait un péché d'inceste et il va y avoir des graves conséquences qui vont suivre. On va les regarder un petit peu plus en détail tantôt. Il y a aussi le bonheur de voir l'achèvement de sa famille. Parce qu'il y avait 11 gars qui étaient. Et là, il va permettre que le dernier qui arrive, c'est Benjamin. Le père a décidé de Benjamin, mais la mère avait décidé de l'appeler Benoni. Il va avoir le bonheur de voir les chefs des 12 tribus d'Israël s'accomplir. Voyez-vous les circonstances, comment ça marche? Dieu intervient des circonstances agréables. Dieu intervient, trois morts. Son fils qui couche avec sa femme. Et en plus, il voit l'achèvement de sa famille. Là, on voit comment Dieu travaille avec nos circonstances. Certaines, on les perçoit comme étant douloureuses. Et ils sont douloureuses. Quand tu perds ta femme, là, d'un coup sec, je me souviens quand j'étais à Cornwall, j'avais compté dans un sermon que j'avais connu un gars, dans le temps que je travaillais au pénitencier de Cornwallville, qui était un gardien de prison, marié, trois enfants. Sa femme part d'après-midi pour aller faire la commande dans Cornwallville. Des petits gars qui étaient sous, qui avaient pris une brosse, frappe la vanne de sa femme, et non seulement il perd sa femme, mais il perd ses trois enfants d'un coup sec. Je ne sais pas si vous savez, là, mais quand vous revoyez le gars qui vient essayer de faire son travail, parce qu'il a pris quelques jours, bien entendu, mais après, d'essayer de ne pas lâcher sa job, garder sa job, il avait l'air, sérieux, le mot que je pourrais utiliser pour le qualifier, ce serait il avait l'air d'un zombie. Il avait l'air. Comment on peut comprendre un événement comme ça dans la vie de quelqu'un? Des fois, je me souviens que j'avais prêché ça à Cornwall. Le pasteur était dans. Lui, il avait une grosse famille, il avait 10 enfants. Le pasteur se met à broyer. Sur le coup, j'ai pas beaucoup saisi pourquoi il faisait ça. Là. Mais j'imagine que dans sa tête, il a dû se dire: ah! Oh, s'il faudrait que moi, je perde ma femme et tous mes enfants dans la vanne, au même moment, je pense que je m'en relèverais pas. Alors, ça l'avait fait, ça l'avait terriblement ému. Mais de voir comment Dieu travaille dans nos circonstances, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Que Dieu est absolument au contrôle. Quand on dit Dieu contrôle nos circonstances, c'est lui qui permet qu'une telle chose arrive dans ta vie ou qu'elle n'arrive pas. Puis c'est lui qui te fait passer d'une expérience que toi tu considères comme malheureuse ou douloureuse à une autre expérience qui est agréable. Le Seigneur est le tricoteur. Il tricote nos circonstances. Mais il est au contrôle de façon absolue. Ça, c'est important de saisir ça, parce que si on ne saisit pas ça, à un moment donné, on se dit, quand il nous arrive quelque chose, tu ne fais pas notre affaire, on dit, le Seigneur m'a oublié. Moi, pauvre petit moi. Il ne t'a pas oublié. Il s'occupe de toi. Si tu es un croyant, la Bible dit que tout ce qui t'arrive, sans aucune exception, Quand on parle de nos circonstances, il y a beaucoup de choses dans une vie qui se passent à tous les jours, là, au cours d'une année. Regardez une année avec du recul. Vous avez eu des choses agréables, vous avez eu des choses désagréables. Pensez-vous que Dieu ne sait pas ce qui se passe? Non, ça, il sait ce qui se passe, seulement il sait ce qui se passe, mais c'est lui qui l'a décrété. L'ordre dans lequel ça arrive, une circonstance agréable suivie d'une circonstance désagréable et tout ça. Il contrôle ça de façon absolue. C'est important théologiquement de se rentrer ça dans la tête, parce que si on le comprend, quand il va arriver des choses difficiles à vivre, on va avoir plus de facilité. Je ne dis pas que ça rend la chose, ça rend les circonstances difficiles, qu'ils sont plus difficiles, puis ça fait plus mal. Mais ça fait en sorte qu'on garde quand même une certaine sérénité malgré tout. Alors, on va revoir. Je voudrais qu'avant de commencer l'étude du texte comme soi, comme tel, de regarder quelques versets dans les Écritures qui nous affirment que Dieu est au contrôle de toutes nos circonstances. Parce que c'est important. Dans le psaume 103, au verset 19, là, le Seigneur parle de providence générale. La providence générale, c'est tout ce qui se passe à la terre. Et ça en fait des événements. Pensez à tout ce qui se passe à la terre. Et là, il parle de ça, dans le psaume 103, verset 19. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux. » Un trône, c'est quelque chose sur lequel on est assis, puis c'est nous qui décide ce qui se passe en bas. Il dit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne, » je veux dire, « règne », ça veut dire que c'est lui qui décide ce qui arrive, c'est bon ou pas bon, c'est lui qui décide. « Et son règne a la domination sur tout. » C'est gros ce verset-là. Ce verset-là, on pourrait le méditer tout le restant de nos jours, puis on n'aura pas fini de comprendre le sens. Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Nous, on parle de providence, plus de catégorie genre spéciale. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Ben moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Il est en train de nous rappeler que Dieu, dans sa providence, non seulement il a sa providence pour les élus, pour les croyants, mais il a sa providence pour l'ensemble de tout ce qui se passe sur la terre. Il est en train de dire « Dieu est quand même bon ». Ils sont méchants, mais il les envoie quand même le soleil. Ils sont méchants, mais il les envoie quand même, et il fait pleuvoir, etc. Donc, la providence, Dieu s'occupe de tout le monde qui est sur la terre, mais les Écritures nous apprennent qu'il s'occupe de nous, les croyants, d'une façon particulière. Et c'est là qu'on va aller dans Romains 8, 28. Romains 8, 28, là, c'est un des plus beaux versets des Écritures. Je ne dis pas qu'on ne le comprend pas du tout, on le comprend un petit peu, mais si on le comprenait vraiment, on chiolerait jamais. Puis vu qu'on chiole tout le temps, c'est peut-être un indice qu'on ne l'a pas compris encore. Romains 8, verset 28. Là, il parle de la providence de Dieu dans la vie des croyants. Il ne parle pas de tout le monde, des croyants, ça c'est nous. Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Son dessein, ce n'est pas un dessein qu'on dessine, là. Son dessein, c'est sa décision, son décret. C'est intéressant dans le grec, parce que si vous allez voir les verbes, c'est toute chose travaille ensemble. Si tu le traduirais littéralement, là, c'est toute chose, toutes les choses qui arrivent dans ta vie, dans les moindres petites circonstances, là, minimiser, tu sais, des affaires de la vie quotidienne. Là. Mm-hmm. Téléphone sonne alors que ça ne tente pas qu'il sonne, il sonne pareil. etc. Là. C'est toute chose travaille ensemble. Ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu permet, que tout ce qui arrive dans une journée, c'est comme un tricot. Toute chose travaille ensemble et concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on est des véritables croyants, on aime Dieu, ça c'est automatique. Si on dit qu'on est un croyant et qu'on n'aime pas Dieu, on a un problème. Il est pas mal sérieux ton problème. Alors, nous savons aussi que toute chose travaille ensemble ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si on comprenait vraiment ce verset-là, je parle, compris pour moi, c'est intégré dans ta tête au point où il t'arrive quelque chose de désagréable dans une journée, que toi tu trouves désagréable. Et là, si tu le comprendrais vraiment, tu dirais, ah, c'est Dieu qui m'envoie ça. Ça fait mal, mais je sais que c'est pour mon bien. Tu garderais ton calme et tu continuerais à vivre. C'est pas ça qu'on fait, hein? On rue les brancards, puis là, voyons, j'avais-tu besoin de ça, moi? Là? S'il y avait quelque chose, j'avais pas besoin, c'est bien ça, là, à ce moment-là de ma vie. Là, tu es en train de dire, moi, je sais mieux que Dieu que ce que j'ai besoin. Dieu sait mieux que toi ce que tu as besoin. Puis s'il permet que telle circonstance arrive dans ta vie, c'est parce que c'est ça qui est le mieux pour ta vie, pour te faire ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est un gros verset, ce Romains 8:28. Priez. On peut prier le Seigneur de nous faire comprendre Romains 8:28. Pas seulement de nous le faire comprendre, mais de nous le faire appliquer. Une différence entre comprendre quelque chose et appliquer quelque chose. Et on a aussi Matthieu 28, verset 20. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Et c'est la dernière phrase qui est intéressante. « Et voici, je suis avec vous. » Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand il t'arrive quelque chose, pensez-vous qu'il t'a oublié? Souvent, c'est ça qu'on est porté à faire. Il nous arrive un gros malheur, là.
Ah, oh, mais là, par moi, les yeux, ils m'ont oublié, là. Il m'aime plus.
Eh oui, il t'aime encore. D'accord, c'est quelques versets, je voulais vous rappeler, concernant pour nous rappeler ça. Maintenant, on tombe dans le texte comme tel. Les circonstances providentielles, moi, je les appelle pédagogiques. Pédagogique, ça veut dire enseigner. Dieu permet, Dieu t'enseigne par les circonstances. Et vous, dans Genèse, il faut se rappeler que la mort, parce que dans le texte, on a vu tantôt qu'il y avait trois morts qui arrivaient à Jacob dans sa vie. Quand il va vous en arriver une, vous allez trouver ça raide. Mais si Dieu permet qu'il n'arrive trois, tout, là, vous allez trouver ça super raide. Mais c'est ça qui arrive à Jacob. Il y a eu trois immenses bénédictions. Dieu permet qu'il connaisse trois épreuves de suite, une à derrière de l'autre. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que la mort fait partie de la vie et c'est Dieu qui a dit dans Genèse 2, verset 17, « Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et le verset, il faut le comprendre, il y a trois sortes de morts. Il y a la mort physique, on sait tout c'est quoi, on sait tout quelqu'un dans nos familles qui est décédé. Il y a la mort spirituelle, Dieu dit que à cause du fait qu'Adam a péché, tous les hommes se trouvent à avoir péché en lui, et les hommes qui n'ont pas reçu la grâce sont tous morts spirituellement. Une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, autour de vous, les personnes qu'on appelle les païens, les inconvertis, là, sont morts spirituellement. Ils sont pas malades, ils sont morts, c'est différent. Spirituellement, ils sont morts. Et s'ils décèdent dans cet état-là, ils vont connaître la troisième mort, qui est la mort éternelle, donc l'enfer pour l'éternité. Donc, à l'heure actuelle, quand on est sauvé, Dieu nous enlève la mort spirituelle, on ne l'a plus parce qu'on est né de nouveau, et il nous enlève la mort éternelle parce qu'on ne la connaîtra pas, mais il permet qu'on ait encore la mort naturelle. C'est ça qui arrive dans sa vie. Et il rappelle aussi que les femmes une des conséquences de la chute, c'est le fait que la femme va enfanter dans la douleur. Alors, il avait dit dans Genèse 3,16, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. » Alors, ce qui arrive, là, dans Genèse 35, verset 8, que ça dit, « Et Déborah, nourrice de Rebecca, » c'était sa mère, ça, Rebecca. Donc, elle était sa nourrice, c'était en quelque sorte comme ma tante, une grande amie de longue date, meurt. Il dit, et Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Et elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous le chêne qu'on appelle Alon Bakout, qui veut dire chêne des pleurs. Alors, bien sûr, je pense que le verset veut nous dire que lorsque la nourrice de sa mère est décédée, s'il l'enterrait sous le chêne, qui ont appelé ça chêne des pleurs, c'est parce que ça y a fait de la peine. Après ça, on va aller dans les versets 16 à 19. Donc, on parle d'une autre mort. On va aller dans l'autre mort. Genèse 16 à 19. Et ils partirent de Bethel, et il y avait encore un espace de pays pour arriver à Éphrath lorsque Rachel enfanta, et elle eut beaucoup de peine à accoucher. Voyez-vous, on vient de voir dans Genèse que le Seigneur avait dit que l'accouchement serait difficile. Dans son cas, à elle, c'est plus que difficile. Elle y a laissé sa peau, comme on dit. Et verset 17, « Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as eu un fils. » Et comme elle rendait l'âme, car elle mourut, elle le nomma Benoni, qui veut dire « fils de ma douleur ». Mais son père l'appela Benjamin, qui veut dire « fils de ma droite ». Rachel mourut donc, et elle fut ensevelie au chemin d'Éphrath, qui est Bethléem. Et Jacob dressa un monument sur sa tombe, c'est le monument de la tombe de Rachel qui subsiste encore de nos jours. Le nombre d'allusions au Seigneur Jésus-Christ dans ce texte-là est presque hallucinant. Mais si on le lit rapidement, on ne les voit pas. Mais si on fait référence à d'autres passages des Écritures, on les voit. Voyez-vous, ça dit, premièrement, le texte nous parle de plusieurs noms. Rachel, Éphrath, Bédoni, Benjamin, puis Bethléem. Reprenons-les un par un. Rachel, qui veut dire brebis. Le nom de sa femme voulait dire brebis. Éphrath, c'est le nom primitif de Bethléem en Judée. Le nom signifie fécondité. Vous allez voir, quand on les met toutes ensemble, les significations, on voit la personne de Christ apparaître, là, comme par magie, on pourrait dire. Bethléem, c'est le village de la naissance du père de David et des années d'enfance de David. David, il a vécu sa vie d'enfance à Bethléem. Les Saintes Écritures nous parlent de l'importance de Bethléem Ephrata. Ça vous dit de quoi, ça? Terre de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et Bethléem signifie maison du pain. Brebis, fécondité, maison du pain. Michée, chapitre 5, verset 2. Ça, c'était une prophétie. Une prophétie que le prophète voulait dire l'endroit exact géographiquement dans Israël où Jésus viendrait au monde. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Il est en train de dire le Messie, quand il va venir au monde, il va venir au monde à Bethléem Ephrata. Alors, dans le texte, là, ces mots-là ne sont pas placés là par hasard. Au moment où il y a une femme qui meurt, mais qui est le dernier qui finit la nation d'Israël, on fait référence à Jésus plus tard, beaucoup plus tard. On ne le dit pas que c'est dans ces mots-là, mais je pense que quelqu'un qui lit le texte attentivement, il voit tout de suite Bethléem et Ephrata. Quelqu'un qui connaît le moindrement sa Bible, il sait que c'était le lieu de naissance de Jésus-Christ. Alors, quelque part, c'est comme si Dieu voulait dire, la mort de ta femme, c'est pas fini. Le Messie, lui, va venir aussi. Et Benoni signifie « fils de ma douleur ». Jésus, est-ce qu'il a souffert beaucoup quand il est venu sur la terre?
Oui.
Fils de ma douleur, est-ce que c'est un nom qui lui convenait? Bien entendu. Et son père lui dit non. Sa femme, elle a tellement souffert en le mettant au monde qu'elle a dit, moi, je vais l'appeler Benoni, fils de ma douleur. Comprends? Elle est morte en l'accouchant. La douleur était à point qu'un peu. Hein? Après ça, le père lui dit non, on ne l'appellera pas fils de ma douleur. On va l'appeler fils de ma droite. Jésus est assis où?
À la droite.
Alors, tous ces noms-là qu'on vient de nommer, Rachel, Ephrate, Bethléem, Benoni et Benjamin, sont hautement évocateurs et subjectifs de la personne de Christ. On va aller regarder des versets des Écritures où on nous décrit Jésus comme étant l'homme de douleur. On trouve ça où? Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru à notre message? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur, et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Quel beau passage qui nous rappelle que Jésus est un homme de douleur. Quand on dit le premier nom qui était donné à l'enfant, sa femme a laissé sa peau, mais c'était un homme de douleur. Mais le père a dit non, il ne s'appellera pas de même, il va s'appeler fils de ma droite. Quand on va dans Marc 16, verset 19, Jésus est assis à la droite de Dieu. Ça dit dans Marc 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Fils de douleur, fils de ma droite, si on ne fait pas un lien avec le Seigneur Jésus-Christ, on manque le bâton un peu, là, je pense. Et dans Genèse 49, vers la fin du livre de la Genèse, le Seigneur a fait, pas le Seigneur, mais Jacob a fait des bénédictions à l'ensemble de ses fils. Et dans le verset 8 à 10, il lui rappelle que le Messie, par quelle tribu va arriver, il dit, « Toi, Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur le cou de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu es revenu du butin, mon fils, il s'est courbé. » Il s'est caché comme un lion, comme un vieux lion, qu'il fera lever. Le sceptre ne s'écartera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo. Le silo, dans ce verset-là, il parle du Messie. Il dit qu'il parle de la tribu de Judas, puis il est en train de faire une prophétie que le Messie va descendre de la tribu de Judas. Intéressant pareil, hein, parce qu'il y a eu trois. Judas était le quatrième fils. Le premier, Ruben, pourquoi il a perdu son droit d'aînesse? Parce qu'il a couché avec la femme de son père. Siméon et Lévi, ils étaient des meurtriers, des violents. Les trois premiers ont été éliminés, et c'est du quatrième que Dieu va permettre que le Messie arrive, de la tribu de Judas. Jésus était de la tribu de Juda. Alors, les trois premiers fils de Jacob se sont eux-mêmes disqualifiés comme faisant partie de la lignée messianique. Ruben, par le péché d'inceste envers la femme de son père. Puis, Siméon et Lévi, par leur violence, en exterminant Sichem et ses habitants. Un énorme et très dangereux massacre. Ça aurait pu beaucoup plus mal tourner que ça. Alors, bien entendu, je pense que quand Jacob érige un monument, il témoigne de sa foi à la résurrection future. Il fait un monument, il sait que sa femme, il dit que ça existe qu'à ce jour. Ça veut dire que c'est comme un témoignage de la foi à la résurrection future. Et là, on parle de la troisième mort, parce qu'on parlait de trois morts, alors on vient de connaître la deuxième. La troisième, Genèse 35, versets 27 à 29. Et Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Voyons-vous la continuité? Abraham, qui était transmis à Isaac, qui était transmis à Jacob, et ça aurait dû être transmis à Ruben, parce que c'était lui le premier-né. Pourquoi pas Ruben? À cause de son grave péché. Pourquoi ça n'a pas été à Siméon et Lévi? C'était le deuxième et le troisième. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes en étant violents. Et ça dit, et les jours d'Isaac furent de 180 ans. Et Isaac expira et mourut. Il fut recueilli vers ses peuples, âgés et rassasiés de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Donc, à quelque part, 180 ans, il est mort. Moi, j'aime bien l'expression biblique.
Rassasié de jours.
Âgé et rassasié de jour. On dirait qu'il arrive un moment donné dans la vie où tu as assez vécu, ce que tu voulais avoir, tu l'as vu, ce qui était arrivé est arrivé, puis tu es prêt. Seigneur, si tu veux venir me chercher, je suis là, je suis prêt. Deuxième idée qu'on veut regarder, c'est les circonstances providentielles dans lesquelles il y a une prophétie. L'exaucement du désir de Rachel. On se souvient que Rachel, quand elle a eu son premier fils, elle était très contente. Hein? Joseph était très contente. Mais elle aurait voulu en avoir un autre. Parce que ça dit dans Genèse 35, versets 22 à 24, « Dieu se souvint de Rachel et Dieu l'exauça et la rendit féconde. Et elle conçut, elle enfanta un fils et dit, « Dieu a ôté mon opprobre et elle l'appela Joseph, qui veut dire il ôte ou il ajoute, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Elle en voulait un autre. Elle en a eu un autre. Mais il a coûté très, très cher. Alors, bien entendu, on assiste aussi au fait que Dieu achève les patriarches de la tribu d'Israël, les douze chefs des tribus. Dans Genèse 35, 22 à 26, là, il nomme... Très intéressant, ce petit chapitre-là. Parce qu'il y a des choses que, des fois, on les remarque pas, mais pourtant, sont significatives. Jacob avait 12 fils. Là, il dit, les fils de Léa, il nomme Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Et après ça, il nomme les fils de Rachel. Mais est-ce que c'est dans cet ordre-là qu'ils sont arrivés, les filles? Parce qu'il y a eu... Il y a eu un arrêt, puis ça a été la servante. Après ça, ça a été l'autre, puis ça a été la servante. Dieu ne les met pas dans cet ordre-là, dans ce passage-là. Donc, ils ne sont pas mentionnés dans l'ordre de naissance. Ils sont mentionnés dans l'ordre la première femme qu'il y a eu, la deuxième femme qu'il y a eu, ensuite les servantes. Mais c'est intéressant de Dieu permettait que l'enfant, il aurait pu mourir aussi. C'est une naissance difficile comme ça. Des fois, l'enfant, il reste sa peau aussi. Ouais. Dieu permet que Jacob a ses douleurs, il voit des mortalités, il voit son fils qui couche avec sa femme, mais dans le fond, Dieu permet quand même qu'il voit l'accomplissement, la fin, de la complétude, qu'on pourrait dire, de la tribu d'Israël. Maintenant, on va voir le troisième point, les circonstances providentielles qui causent un problème. L'inceste de Ruben. Genèse chapitre 35, verset 22. « Il arriva, pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben vint et coucha avec Bila. Bila, c'était une des femmes de Jacob. Il y en a eu quatre, lui. Ça, de même, ça marchait de même dans ce temps-là. Et Ruben vint et coucha avec Bila, concubine de son père. Il l'appelle pas femme, il l'appelle concubine. Et Israël l'a pris. Il nous donne pas les qu'est-ce que ça y a fait, là? Mais j'imagine. Ça a dû lui donner un grand coup. Dans son commentaire sur le livre de la Genèse, le théologien Philip Evison fait la remarque suivante concernant le passage qu'on est en train de lire, là, où il couche avec la femme à son père. Et lui, il dit que ça veut dire plus que juste une relation sexuelle. Voici ce qu'il dit. Je le cite mot pour mot. Il dit, l'acte abominable de Ruben, l'aîné de ses fils, ne fait qu'ajouter au chagrin de Jacob et ne se limite pas à un acte sexuel. Ruben cherche probablement à usurper la position de chef de famille qu'occupe son père. Absalom, on le sait, un peu plus tard, va faire la même chose envers son père. Il va vouloir tuer son père pour devenir roi. Alors, c'est pas une affaire nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, quelqu'un qui couchait avec la femme à son père, c'était la peine de mort. Lévitique, chapitre 20, verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme, t'as les deux, seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Voyez-vous, il a couché avec la femme, puis lui, le fils, il n'est pas mort, Ruben, puis la femme non plus. Ni l'un ni l'autre. Pourtant, c'était la loi à l'époque. Il faut imaginer la douleur de Jacob d'apprendre une pareille nouvelle. L'inceste de Ruben va lui attirer la malédiction de son père avant de mourir. Des fois, on ne la voit pas tout de suite parce qu'il ne la dit pas tout de suite. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous arrivez dans Genèse 49, il fait venir chacun de ses enfants au pied de son lit et il leur fait des prophéties ce qui va leur arriver dans l'avenir. Voici ce qu'il dit dans Genèse 49. Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, tu as été mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité et prééminence de puissance. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras point la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. » On lui dit, tu étais le premier-né. On va les revoir un petit peu rapidement tantôt. Tout ce qui était rattaché au fait, le droit d'aîné, ce qu'on appelait. Là. Tu n'auras pas le droit d'aîné parce que tu as couché avec la femme de ton père. Après ça, dans le verset 5, là, on voit pourquoi les deux autres qui auraient dû suivre, auraient dû l'avoir parce que ça se transmettait. Pourquoi ils ne l'ont pas eu? Et là, quand il arrive au verset 5, il parle de Siméon et Lévi. Il dit, « Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon arme n'entre point dans leurs conseils, que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée. » Car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère. Maintenant, la dernière chose que tu fais pour bénir ton fils avant de mourir, tu lui dis, maudite soit ta colère. Fait que là, il y en a trois qui sont éliminés. C'est à qui le prochain? Le quatrième enfant, c'était Judas. Et on sait que Jésus est venu chez lui. C'est de lui. Juste rappeler un petit peu rapidement, qu'est-ce qui arrivait le droit d'aînesse? L'aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions contenues dans les promesses de l'Alliance. Je pourrais vous donner les versets. L'aîné recevait l'autorité du père sur ses frères. Troisièmement, l'aîné devenait un maillon dans la chaîne des descendants qui donneront un jour le Messie. Ça aurait dû être lui qui aurait dû être le père de un maillon dans le show du Messie. Quatrièmement, l'aîné recevait une double portion. Il recevait deux fois plus que les autres. Cinquièmement, l'aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu. Sixièmement, l'aîné recevait l'héritage terrestre, le pays ou le territoire de Canaan. Et septièmement, l'aîné jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes. Voici ce que perdit Ruben pour le plaisir d'un instant. Et si c'est vrai ce que Evson dit, c'est qu'il y avait plus que coucher avec sa mère, avec la femme de son père. Il y avait l'idée de vouloir s'approprier l'autorité du père. Il y avait quelque chose de très malsain à l'intérieur de ça. Trois applications. Rappelons-nous sans cesse que le Seigneur est au contrôle de toutes les circonstances de nos vies. Les expériences amères, comme la mortalité, ou la séparation avec les êtres chers. Accueillons-les avec sérénité, comme venant de sa main, et étant remplis de sagesse pour notre plus grand bien. Prions le Seigneur d'établir solidement et concrètement cette attitude dans nos vies quotidiennes. Le Seigneur sait doser nos expériences amères et bénissantes. Deuxième application, souvenons-nous que tout dans les Saintes Écritures nous parle de Christ. Si on lit ce passage-là rapidement, l'affaire de Ephrata, Bethléem, Benoni, Benjamin, on ne fait pas un lien. Pourtant, il y en a un, il est gros. Là. Alors, souvenons-nous que quand on lit les Écritures, plus on cherche Christ, plus on le trouve, parce qu'il est là partout. Troisièmement, apprenons sur le côté abominable du péché en général, et du péché sexuel en particulier, et son impact négatif sur notre relation avec le Seigneur et sur son côté destructeur. Que l'Éternel soit béni et adoré pour sa sagesse dans la gestion de nos circonstances providentielles. Amen.
Amen.